Un homme disait, j'oublie l'homme en question, puis je vais donner la citation un peu dans mes propres mots, mais qui disait que les prédications qu'il a entendues les plus percutantes n'étaient pas ceux qui venaient du haut de la chair, mais plutôt d'un lit dans la souffrance. Les gens qui sont sur le lit ou sur la souffrance, dans la souffrance, qui ont l'occasion de partager comme ça, c'est souvent des paroles qui viennent percuter le cœur des gens qui écoutent. Et puis, j'ai beaucoup apprécié ton témoignage, Serge. Je trouve que ça nous allume des lumières et puis ça nous amène à être sensibles face aux différentes souffrances, puis particulièrement avec la dépression aussi, qu'on peut avoir près de nous. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, qu'on glorifie Dieu, que Serge vient de terminer avec 1 Pierre 5, dit à lui soit la gloire. C'est ça que je veux qu'on prenne le temps. Je veux louer pour le témoignage qu'on vient d'entendre, puis que Dieu nous conduise pour les quelques minutes qui nous restent. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Parce que souvent, on comprend pas les souffrances. On comprend pas toujours le pourquoi. Comme notre frère nous citait, Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Seigneur, ça nous amène à chacun d'entre nous à se poser la question, est-ce qu'on t'aime? Quel est notre amour pour toi, vraiment? Et on a besoin que tu viennes faire la lumière dans nos cœurs, chacun d'entre nous, pour voir concrètement où on en est avec toi. Seigneur, on veut te rendre la gloire, tout honneur, que même à travers les souffrances, que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Parce qu'on est tes enfants, parce que toi, tu nous aimes aussi. Et parce que des fois, tu nous ramènes aussi les yeux en face des trous en nous rappelant ce à quoi on manque et ce qu'on a oublié, Seigneur, de toi dans notre relation avec toi. Merci, Seigneur, pour notre frère Serge. Merci pour ce témoignage qu'il a pu nous donner en toute humilité. Et Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. On se rappelait les semaines passées que c'est toi le Dieu de toute consolation. Et qu'en même temps, tu nous donnes ce ministère-là entre nos mains, d'être aussi des gens qui participent à la consolation de nos frères et de nos sœurs. Et utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Il y a une expression qui dit « No pain, no gain ». Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ou on pourrait dire en français il y a une expression équivalente en français que les femmes peuvent utiliser, peut-être les hommes aussi. Il faut souffrir pour être beau. Ben, ou pour être belle. Des fois, c'est parce que c'est ma femme qui me dit ça, il faut que tu souffres. C'est être plus beau. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette expression-là? Qu'est-ce que vous pensez de l'expression « il faut souffrir pour être beau »? No pain, no gain. On aurait pu traduire « sans souffrance, pas de gain ». Qu'est-ce que vous en pensez? Pas d'effort, pas de confort? OK, vas-y, Céline, après ça, Paul. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Des fois, on devrait écouter les conseils pour s'éviter bien des mots. Et puis, des fois, c'est ça, on se met les pieds dedans quand même. Absolument. Il y a bien des choses que l'on peut faire, qu'on pourrait s'éviter des souffrances, exactement comme tu dis, Paul. Et de l'autre côté, il y a des gains ou il y a des progressions que l'on fait dans nos vies à cause de la souffrance aussi. Prenons en parallèle quelquefois le corps humain. Parce que le corps humain témoigne bien de notre ensemble, que ce soit de notre esprit ou de notre âme, qu'il y a des similitudes. Pourquoi est-ce qu'un homme se lèverait tous les matins à 5h30 pour aller faire du jogging? Beau temps, mauvais temps. Quand il va sortir à la pluie, quand il va sortir au froid, il va se lever de bonne heure. Pourquoi est-ce qu'il va aller faire son jogging? Pour être en forme. Hein? Parce qu'il veut entretenir son corps, il veut entretenir sa santé. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui font beaucoup d'études? Beaucoup d'études, c'est une fatigue pour le corps. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont étudier, mais pour avoir une certaine capacité de connaissance aussi? Effectivement, ça ne s'applique pas en toutes circonstances. Mais de l'autre côté, à travers la souffrance, les Écritures nous montrent qu'à travers la souffrance, on fait des progrès. Que Dieu permet la souffrance pour qu'on puisse être transformé, pour que nos vies soient transformées. Paul, il disait, l'exercice, je le dis dans mes mots, là, l'exercice physique est utile à peu de choses. Et pourtant, on sait comment ça peut être utile à beaucoup de choses d'être en santé, hein? Mais comparativement à notre santé spirituelle, c'est utile en rien ou en pratiquement en rien, l'exercice physique, comparativement à la piété. Alors, si on prend le temps de faire notre jogging tous les matins, ou on prend le temps de faire, peu importe, de s'abstenir de certaines choses, ou de s'impliquer, de s'infliger, je pourrais quasiment dire ça comme ça, certaines rigueurs ou disciplines dans le but de faire des progrès dans notre exercice physique, ben, à bien plus forte raison, dans notre piété, ben, Dieu veut nous faire des progrès aussi. Alors, il y a des disciplines nous-mêmes qu'on va suivre pour certainement que notre relation avec Dieu progresse, mais à travers la souffrance, Dieu nous emmène à progresser aussi. Dieu utilise la souffrance pour nous transformer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Est-ce qu'on est déjà transformé? Alors, je viens de dire, la souffrance, Dieu l'utilise pour nous transformer. Qu'est-ce que vous en pensez? De continuer? Dieu ne nous a pas transformés déjà parfaitement? On n'a pas fini de souffrir. Comment? J'ai échappé à un commentaire. Oui. Oui. Alors, il y a la sanctification dans nos vies, elle est progressive, bien qu'elle ait été accomplie quand même parfaitement à travers Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, puis toute chose est devenue nouvelle. On est transformé. On est déjà transformé. On est déjà une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Mais ça veut dire quoi au juste? Certainement qu'on a à être encore transformé. On a cette transformation-là sur un plan spirituel que Dieu nous a donné, qu'on est saint, qu'on est justifié, qu'on est même glorifié, que Paul va dire. Mais dans notre marche avec Dieu, Dieu continue de nous transformer, comme tu viens de le résumer, Danny, à travers la sanctification. Le jour où on accepte Jésus comme sauveur, comme Seigneur, est-ce qu'il nous transforme en un clin d'œil pour qu'on devienne parfait? Vous allez me répondre oui et non. Pourquoi oui et ou pourquoi non? Relation s'est développée. Oui. Et merci, Pauline. Oui. Le jour où on accepte Jésus comme sauveur, comme Seigneur, on est transformé. On est d'accord avec ça? On vient de lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Mais de l'autre côté, vous comme moi, on marche sur la terre, puis on se doit que d'aller de progrès en progrès. Et Dieu, en nous sauvant, on n'est pas devenu, dans notre marche sur la terre, parfait. Hein? On n'est pas le salut final ou l'accomplissement final de notre salut. On va le trouver quand Jésus va venir nous chercher, quand on va aller à sa rencontre. On sera parfaitement sauvé. Mais dans ce cas-là, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi la stratégie de croissance que Dieu a conçue est-elle plus importante que la perfection instantanée? Comprenez-vous ce que je veux dire? Pourquoi, je vais juste la répéter, juste en cas qu'il y en a qui cogitent encore. Pourquoi la stratégie de croissance que Dieu a conçue est-elle plus importante que la perfection instantanée? On ne pêche plus. On vit parfaitement. Il y avait Sonia qui a levé la main. Après ça, Normande. OK. Oui. Alors, il faut dépendre de lui pour que Dieu continue de nous transformer. Dieu voulait qu'on dépende de lui, absolument. Oui, Normande. Oui. Oui. Alors, Dieu veut nous faire croître avec lui. Il y a un processus qui a manqué. Il y a un gap qui a manqué. Oui. Oui. OK. Alors, Dieu a voulu nous faire croître, même en tant qu'enfant, pour qu'on grandisse avec lui. Pas à pas. Pourquoi est-ce que Dieu a... Oui, vas-y. Oui. C'est ça, on a un bagage des fois qui nous traîne. Oui. OK. 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 Merci, Norman. Je prends un ou deux commentaires. C'était quoi l'importance que Dieu a donnée en voulant nous faire passer par un processus de croissance plutôt que de nous faire apparaître instantanément parfait, accompli, sans effort? Sans problème, sans difficulté. On s'attend à lui. Oui. Oui, absolument. À travers, ben, pour rejoindre ces commentaires-là, c'est qui citait ça? C'était-tu dans son témoignage? Je pense que c'était Ginette qui disait ça ce matin en citant Jésus qui disait, tu sais, le père est le vigneron, Jésus est le cep, on est les sarments, puis sans lui, on peut rien faire. Et en dépendant ben, du fils comme du père, ben, Dieu fait pousser des fruits en nous. Et si on citait Jean 15 un peu plus, ben il y a des branches qui portent pas de fruits que Jésus, que le vigneron, que le père enlève, et il y a d'autres branches qui portent du fruit, et qu'est-ce que le père fait? Il les émonde. Est-ce pas un exemple que Dieu utilise des fois, le fait qu'il va émonder nos vies, il va y avoir un peu de souffrance, mais dans le but de nous transformer pour qu'on ait encore plus de fruits? C'est le désir de Dieu de certainement nous émonder pour qu'on porte plus de fruits. Céline? Non? Oui. Oui. Je pense certainement qu'il y a un élément là de que Dieu veut voir les choix que l'on fait, certainement, de voir est-ce qu'on lui obéit, est-ce qu'on le suit ou est-ce qu'on se rebelle. Et ça fait partie de notre croissance, mais évidemment que Dieu est glorifié à travers le fait qu'on dépende de lui. Je vous invite à tourner, je veux qu'on voit deux textes, deux courts textes. Ce soir, on termine avec ça. Un volontaire qui veut me lire Romains 5, 3 à 5. Priscilla, oui. Ils l'ont pas apprécié. Ouais. À cause de leur orgueil, certainement. Ouais, ouais, ouais. Un autre qui va me lire Jacques 1, verset 2 à 4. Quelqu'un qui voudrait lire Jacques 1, ok, Yvan. Et puis, je voulais qu'on lise aussi 1 Pierre 5, mais on l'a lu tantôt. On reviendra sur ça, mais disons deux textes. Romains, Priscilla, Romains 5, 3 à 5. Qu'est-ce que Dieu nous dit que la souffrance peut produire? dans nos vies. Pourquoi Dieu permet la souffrance dans nos vies? Ou je pourrais employer l'expression l'affliction. OK? Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit. Elle produit de la persévérance. Pourquoi qu'on a besoin de la persévérance? Pour aller vers la victoire. Parce qu'on veut goûter à la victoire, puis on veut se rendre vers la victoire. La persévérance, elle produit la victoire dans l'épreuve. Quand que je vis une épreuve, je vais aller jusqu'à où? Bien, Dieu veut que je persévère jusqu'à la fin, puis que je sois victorieux. Et cette victoire, elle produit quoi? Elle produit l'espérance. Et l'espérance, elle ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça commence à l'affliction qui produit la persévérance, qui produit la victoire, qui produit l'espérance. Est-ce que la souffrance produit quelque chose dans les croyants? Absolument. Et c'est ça que Dieu veut produire dans nos vies quand elle le passe. Maintenant, Jacques, il nous dit, on l'a vu les dimanches matins passés. Yvan, tu me lis, s'il te plaît, Jacques 1. OK? Pourquoi est-ce qu'on devrait regarder les épreuves auxquelles on est exposé comme un sujet de joie complète? À cause du produit. Est-ce que la souffrance, quand on est dedans, quand on vit l'épreuve, on est dans la joie? Ben non. Puis Dieu n'est pas en train de se moquer dans un sens de la souffrance en disant, ben voyons donc, tu sais, vis ça, on parle dans la joie. Parce que Dieu est en train de nous dire, c'est que la joie que l'on a, on l'a à cause du produit de la souffrance. Parce que la souffrance produit, verset 4, sachant que, plutôt verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse aussi parfaitement son œuvre afin que vous soyez quoi? Parfait, accompli, sans faillir en rien. Voilà le processus de la souffrance. Dieu, certainement, que pourquoi Dieu permet la souffrance dans ma vie? Bien, on n'a pas toutes les réponses, mais à travers quelques textes qu'on vient de voir, c'est que la souffrance nous conduit à être transformés. Transformés dans notre patience, transformés dans notre persévérance, qu'elle nous emmène dans l'épreuve, elle nous emmène à voir une nouvelle perspective de l'espérance, elle nous emmène à être parfaits, qu'on voyait dans Jacques aussi, à être inébranlables, parce que c'est Dieu qui accomplit justement ce produit-là dans nos vies quand on dépend de lui. Qu'est-ce que Dieu produit en nous par la souffrance? Je vais juste poser quelques questions rhétoriques pour terminer. Comment avez-vous réagi aux difficultés de la vie? Êtes-vous devenu amer ou meilleur? Qu'est-ce que ça a produit dans vos cœurs? Avez-vous grandi dans votre foi ou vous êtes-vous détourné de Dieu? En êtes-vous venu à ressembler davantage à Christ? Avez-vous permis aux difficultés de vous façonner et de vous rendre conforme à l'image du Fils de Dieu? Les souffrances peuvent nous amener à être transformés, ce qu'on vient de voir à travers les divers textes. Mais quelle est la confiance, quelle est l'attitude, la foi ou l'espérance que l'on conserve à travers ces moments-là? Question, commentaire en terminant? C'est ça, une grosse différence. Au niveau, Mané, j'avais apporté deux bouteilles, une bouteille de vin puis une bouteille de vinaigre. Pourtant, c'est la même source, hein? Il y en a un qui est devenu un bon vin. Je sais pas, j'ai pas goûté, là. Mais il y en a un qui est devenu un vin, puis l'autre est devenu un vinaigre. Il n'y a pas personne qui aime boire un verre de vinaigre. Et pourtant, c'est du jus de raisin, les deux, initialement. Mais il y en a un qui est devenu amer, puis l'autre devenu un bon vin. Ça rejoint l'exemple que tu disais. Oui, Richard, on va terminer là-dessus. On a appris. Oui. C'est ça. C'est ça. Oui. Oui. mais il est passé à travers la souffrance, puis il y a certaines choses qui, exactement, qui sont restées aussi, même pour nous aujourd'hui, un exemple. Certainement. OK. On termine là-dessus. Pauline, tu avais. OK. On va terminer là-dessus puisque le temps est avancé. Merci encore, Serge, pour ton témoignage. Et on va terminer avec la prière. Seigneur, on vient devant toi encore pour te louer, pour t'adorer. Merci pour ta parole qui vient nous apporter des réponses à ces questions que des fois on n'a pas toujours. Seigneur, on veut te dire merci parce que à travers la souffrance, tu l'utilises ou tu utilises l'affliction pour nous conduire à être plus persévérants, qui nous conduit à la victoire, qui nous conduit à l'espérance. Tu nous transformes, Seigneur, à travers ces moments-là, et on veut avoir la confiance que tes mains sur nos vies sont bonnes, que tu es le potier, qu'on est l'argile, et qu'à travers ces moments-là où tu nous façonnes, parfois ça peut être souffrant, mais on croit que tu nous transformes pour notre bien, on croit que tu fais des bonnes choses, parce que tout ce que tu fais est bon et merveilleux. Et on veut avoir cette confiance-là que tu fais ça dans nos vies, que tu nous façonnes, et que tu nous façonnes d'une façon merveilleuse. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.